grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Quand on aime ça, quel plaisir de mettre la main à la pâte, se mettre au fourneau pour faire plaisir aux autres. Préparer une salade d'asperges aux chèvres frais, un gigot de 7 heures et sa purée de pommes de terre, des supions au piment d'Espelette, une omelette au cèpe, des penne à la napolitaine, une tarte au chocolat et caramel au beurre salé ou encore un bavarois aux fraises. Bien souvent perçu comme une corvée quotidienne dans la semaine, la cuisine devient vite une fête le week-end venu entre amis ou en famille. Traditionnelle ou créative, la cuisine faite maison est de plus en plus plébiscitée par tous ceux qui délaissent les plats ultra transformés. Nous explorons ce matin les différentes dimensions de cette passion pour la cuisine, celle qui fait du bien aux autres et à soi. Ce matin, une grande tablée façon banquet d'Astérix. Les journalistes Flavia Meslin, Salvi et Nathalie Lal sont avec nous, ainsi que l'universitaire Pascal Lardelier, le sociologue Rémi Oudguiri et le chef Grégory Cohen. Et vous, pourquoi aimez-vous cuisiner? Pourquoi prenez-vous le temps de préparer de bons petits plats? Racontez-nous les tours de main et savoir-faire qui se transmettent dans votre famille. Fréquentez-vous les cours de cuisine? On vous attend nombreux au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Comme Obélix, il est tombé dans la cocotte en fonte pour préparer de bons petits plats à ses enfants. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali, mais il est un peu moins épais.
Vous êtes notre professeur de philosophie qui salive à l'idée de partager ses réflexions philosophiques tout à l'heure.
Oui, parce que cuisiner, c'est préparer, mais c'est pas seulement préparer, c'est aussi faire une opération métaphysique un peu étrange qui consiste à donner une forme à de la matière.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébé.
Autour de la grande table de notre banquet ce matin, Flavia Meslin-Salvi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du hors-série de Psychologie Magazine, Ce que ma maison dit de moi. Bonjour Nathalie Elal.
Bonjour Ali.
Journaliste, auteur de nombreux livres de cuisine. Rémi Oudguiri, sociologue, directeur adjoint du cabinet Sociovision.
Bonjour.
Pascal Lardelier, professeur en sciences de l'information à l'université de Bourgogne. Vous avez publié il y a quelques années Opéra Bouffe. Et vous êtes en duplex de Dijon. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour.
Chef cuisinier, restaurateur, vous avez pris les commandes récemment du 99 Haussmann à Paris. Alors dites-moi en quelques mots pourquoi vous aimez mettre la main à la pâte, pourquoi vous aimez cuisiner, Nathalie Elal.
J'aime cuisiner parce qu'avant tout j'aime manger. Alors si j'aime bien manger, il faut que je cuisine bien. Avec le plaisir tout à fait relatif des courses. Alors parfois le marché, souvent le marché, c'est quand
c'est
même un plaisir. Sauf si on a la pression, si on a moins de temps. Et puis sinon, eh bien ranger la cuisine après, c'est toujours une corvée, faut bien le dire. Mais sinon, j'aime toujours cuisiner et heureusement.
Grégory Cohen, est-ce que vous éprouvez du plaisir à cuisiner à la maison après avoir passé la journée dans votre restaurant?
Ah oui, c'est complètement différent. Moi, j'aime cuisiner parce que j'aime partager en fait. Pas forcément parce que j'aime bien manger. J'aime bien manger, ça c'est acquis et depuis que je suis petit.
Ça se voit.
Merci. Et pourtant je fais des efforts. Je suis
vraiment revenu au sport. Mais non, mais bienvenue au club.
Ok, c'est sympa. On balance aujourd'hui. et donc en fait, oui, cuisiner à la maison, évidemment, c'est complètement différent. Hein. On transforme la matière aussi, on lui donne des formes différentes.
Qu'est-ce qu'il y a de différent?
Il n'y a pas de code. C'est la différence entre une cuisine familiale et une cuisine de restaurant. En fait, quand on va dans une cuisine de restaurant, on s'attend pas à manger une cuisine familiale parce qu'on va au restaurant. Et quand on est chez soi, on fait une cuisine qui a beaucoup moins de code, qui est beaucoup plus ouverte, qui est quelque part beaucoup plus improvisée et donc beaucoup plus conviviale.
Flavia Meslin-Salvi, pourquoi est-ce que vous aimez cuisiner?
Mais parce que j'aime manger, je suis gourmande, et puis aussi parce que moi qui passe toute la journée devant mon ordinateur et dans le virtuel et dans le mental, le cérébral, cuisiner c'est revenir déjà bien au moment présent et dans la matière. Et pour moi, c'est vraiment une façon de revenir, de m'ancrer et d'être dans le réel.
Et vous, Rémi Oudguiri, qui êtes surtout un adepte des nourritures spirituelles?
Alors j'aime bien cuisiner, je ne le fais pas si souvent que ça, mais quand je le fais, c'est une forme d'échappatoire, une sorte de bulle qu'on se crée au milieu d'une journée pour échapper à tout.
Et vous, Pascal Lardelier?
Alors écoute, bonjour Ali, double confidence. D'abord, j'ai grandi dans un petit café-restaurant à Lyon, donc ça me prédisposait finalement à étudier tout ça. Et puis, je me suis mis à la cuisine vraiment quand je suis devenu papa, il y a quelques années. Voilà, je me suis dit qu'il fallait prendre un peu les choses en main, mettre la...
Ah, y a une
voilà petite... que je me suis mis effectivement à transformer la matière en joie et en partage.
Rémi Houdguiry, l'Observatoire France de Sociovision a réalisé une étude sur la passion des Français pour la cuisine. On y reviendra en détail tout au long de l'émission. De plus en plus de Français aiment cuisiner en semaine et surtout le week-end.
Oui, tout à fait. On cuisine pour le plaisir surtout pendant le week-end et de plus en plus. Mais on cuisine également pendant la semaine. Il y en a qui mettent un point d'honneur à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde qui sont ces Français qui le font, bon, il y a un peu plus de femmes, mais c'est plus tellement aussi frappant quand il s'agit de passion de la cuisine. On le fait plus quand on est à la retraite parce qu'on a plus de temps, mais on trouve dans toutes les générations finalement des passionnés de cuisine. Et surtout, ce qui est frappant, c'est quand on regarde le profil des Français qui aiment la cuisine, c'est que ça traverse toutes les générations. S'il y a bien une passion en France qui rassemble les Français, vous les trouvez dans toutes les professions, dans tous les secteurs, dans tous les milieux sociaux, c'est le fait de cuisiner. Donc, je rappelle qu'on est quand même une société très divisée aujourd'hui, particulièrement divisée. Eh bien, la cuisine, c'est probablement une de nos valeurs fédératrices.
Pascal Lardelier.
Oui, la question, Ali, c'était
sur le fait que la cuisine traverse les milieux sociaux, tous les milieux sociaux.
Oui. Alors, en fait, pour expliquer finalement le thème de l'émission et le regain de ce plaisir de cuisiner, je me demande un petit peu, enfin, je pose la question, comment est-ce qu'on mange le reste du temps? Comment est-ce qu'on mange quand on n'est pas en famille et la semaine? Et c'est vrai qu'on mange de la nourriture sous vide, de la nourriture industrielle, de la nourriture collective. Et je crois que la cuisine ensemble, ça ouvre une parenthèse heureuse. C'est quelque chose d'assez ritualisé, finalement. Il y a toute une dramaturgie. On change de temporalité. On prend le temps de faire les courses, de faire la recette ensemble et puis, bien évidemment, de la déguster. Et je crois que ça inscrit finalement la famille eh bien, dans un moment heureux, dans une temporalité particulière, qui a quelque chose de très rituel. Et c'est une réponse à l'individualisme connecté, c'est une réponse à la malbouffe, à la junk food, à tout ça. Et je pense qu'il y a des éléments de réponse dans le fait que ça s'oppose aussi à la cuisine de la semaine, à la cuisine ordinaire.
Alors selon une autre étude du Crédoc publiée en 2018, 68% des Français sont d'accord avec l'affirmation « j'aime cuisiner au quotidien » contre 57% en 2007 et 79% des Français aiment cuisiner quand ils invitent chez eux. Nathalie Elal.
Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on mange ce soir et qu'est-ce qu'on va encore faire et comment le faire. Alors, je pense que contrairement aux années 70 où la cuisine était vécue vraiment comme une corvée ménagère, voire une aliénation pour beaucoup de femmes, c'était les femmes surtout qui cuisinaient, aujourd'hui il y a quand même une chose géniale, c'est le boom des équipements. Aujourd'hui beaucoup de gens s'équipent avec des robots absolument géniaux, multifonctions, des Thermomix, des Cookeo et autres, et ça aide beaucoup. Donc c'est une cuisine aussi différente et qui est très facilitée par cette technologie, il faut bien penser à ça.
Rémi Houdguiry.
Oui, en matière de cuisine, il y a la cuisine très simple et la cuisine très sophistiquée. Quand les gens répondent à la question « j'aime cuisiner », en fait, ils n'ont pas nécessairement en tête le fait de passer énormément de temps. Ils ont simplement l'envie de retrouver le contact avec les aliments. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Pascal Lardelier, cette espèce de réaction par rapport à la nourriture transformée qui est très forte en France, contrairement à d'autres pays. Et il y a ce besoin aussi, et on y reviendra tout à l'heure, mais de partager avec d'autres.
Quelle est l'influence des émissions culinaires sur cet engouement des Français pour la cuisine?
Ah, il est très fort. Alors c'est un engouement d'ailleurs qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe aujourd'hui. Ça crée une génération de, non pas de cuisiniers, je ne pense pas que les gens en semaine ont le temps de cuisiner, mais il y a toute une génération qui a envie de cuisiner le week-end et pour laquelle ça redevient quelque chose d'intéressant. Nous on le voit à travers d'autres indicateurs, les gens sortent moins aujourd'hui et préfèrent inviter et mettre un point d'honneur à préparer quelque chose pour partager avec les autres. Et ça je pense que et en plus, il y a la mise en scène aussi. L'effet de ces émissions culinaires, c'est la mise en scène aussi de la cuisine. C'est-à-dire que c'est tout un rituel qui est de plus en plus populaire.
Grégory Cohen.
Oui, les émissions culinaires, ben moi j'en ai fait une pendant un petit peu de temps.
Sur France 2,
ça s'appelait Chérie, c'est moi le chef et c'était à 17h. On essayait de simplifier, de donner des recettes qu'on pouvait refaire à la maison de façon très simple. En fait, c'est pour moi, les émissions culinaires à la télé, c'est juste un support qui est différent de partage ou de transmission, on va dire plutôt que de partage. À l'époque, on avait les livres de cuisine qui étaient la base pour apprendre, pour transmettre. Je créais un livre et puis les autres le lisaient et puis je transmettais mon savoir de façon un peu linéaire comme ça. Là maintenant, on se retrouve avec une transmission beaucoup plus ouverte, On n'a pas besoin d'acheter un livre, on n'a pas besoin d'avoir un niveau qui à l'époque était censé être un niveau intellectuel un peu plus pour commencer à se plonger dans un livre. Là, c'est ouvert à tout le monde et on a de tout dans les émissions culinaires. On a des émissions culinaires qui sont simples et faciles d'accès et puis d'autres émissions culinaires qui nous font rêver parce qu'on va voir des super pros et qu'on se dit waouh.
Top Chef, par exemple, c'est une excellente émission. Mais moi qui aime cuisiner, je me sens incapable de faire les trois quarts des recettes qui sont mises en scène dans cette émission, Nathalie Hélal.
Et c'est là où la cuisine rejoint précisément le fantasme collectif. C'est-à-dire quand on regarde une émission comme Top Chef, je pense qu'effectivement, vous avez bien employé le mot, ça fait rêver, mais est-ce qu'on pourra soi-même le refaire? C'est un autre débat. C'est exactement comme ces livres de cuisine magnifiques qui servent en fait de coffee table books. C'est-à-dire qu'on les achète,
on pose sur la table
on
basse.
Les pose et on les regarde, on se contente de les regarder parce que c'est difficile de passer à l'action après.
Flavia Mazelin.
Oui, il me semble que les émissions de cuisine ont aussi apporté autre chose, une modification du comportement, c'est-à-dire vous avez employé le mot mise en scène. Et en fait, alors il y a la notion de partage qui est là, mais il y a aussi ce qu'on montre de soi. C'est une nouvelle forme de narcissisme, un narcissisme contemporain, c'est-à-dire qu'on se souvient du dîner presque parfait avec ses notes. Et finalement, c'est une nouvelle performance qu'on a, un défi qu'on a à relever, non seulement que ce soit bon, que ce soit beau, que ce soit dans l'air du temps. Et donc la question c'est jusqu'où ça reste un plaisir. Il y a beaucoup de pression.
Oui, j'ajouterais, c'est même un statut, ça devient un statut. Je pense que l'effet de ces émissions, c'est aussi de rendre la cuisine aspirationnel pour beaucoup de gens. Et Instagram, c'est un réceptacle de mise en scène de cuisine absolument incroyable.
La cuisine en elle-même, le lieu cuisine devient quelque chose de très esthétisant. C'est la plus belle pièce de l'appartement ou de la maison, de plus en plus souvent, très bien équipée, magnifique, mis en scène totalement.
Flavia Mazelin.
Oui, c'est le lieu, c'est le nouveau lieu de l'intimité. Ça redevient le cœur battant de la maison, là où on échange, où on fait des choses
mais
ensemble.
Mais sophistiqué, très sophistiqué.
Alors sophistiqué,
de plus en plus.
Oui, de plus en plus. Mais c'est aussi ça reste le point et ça redevient le point de rassemblement. Il y a quelques années encore, on préparait puis on s'en échappait pour regarder la télévision au salon. Maintenant, toute la famille se ramasse dans la cuisine avec les amis, on partage, on échange. C'est une nouvelle intimité aussi.
Grégory Cohen.
Oui, alors pour rebondir sur la cuisine, d'abord déjà, Nathalie, j'ai noté que tu fantasmais sur Top Chef, c'est intéressant. Il y a cette notion de plaisir, hein, toujours évidemment dans la cuisine. La cuisine, à l'époque, effectivement, c'était en fonction de l'appartement, c'était une petite pièce qui était fermée. Aujourd'hui, on voit que ces pièces, elles sont ouvertes sur la salle à manger. Il n'y a plus tellement de démarcations, les fameuses cuisines américaines complètement ouvertes. Et on a maintenant ce même phénomène dans les restaurants de cuisine ouverte. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce besoin, puisqu'on a décidé de mieux manger, puisqu'on a décidé de comprendre ce qu'on mangeait, eh ben, on a envie de voir ce qu'on nous prépare, tant dans la cuisine, et puis de plus être isolé, de participer aux discussions qu'il y aura autour, que dans les cuisines de restaurants.
Et d'ailleurs, je t'ai vu t'activer en cuisine, tu es sublime.
Alors, dans leur série de Psychologie Magazine, le sociologue Jean-Claude Kaufmann nous rappelle qu'autrefois, la cuisine était la seule pièce chaude de la maison, qu'elle est restée dans l'imaginaire de la pièce de la chaleur, avec ses odeurs de cuisson qui nous enveloppent et annoncent ce moment de plaisir que l'on va partager ensemble. Thibaut de Saint-Maurice, la cuisine, ça, chez vous, par exemple, c'est vraiment le lieu central de la maison?
Alors oui, parce que moi je vis dans un logement dans lequel la cuisine est ouverte sur le salon, comme beaucoup. C'est aussi un lieu dans lequel on vient picorer des impressions, etc. Moi j'ai trois jeunes enfants, et ce qui est amusant c'est que la cuisine c'est pas forcément le lieu où sont les enfants quand ils sont petits. D'ailleurs on les fait sortir de la cuisine parce que c'est dangereux la cuisine, on peut se brûler, on peut se couper, etc. Puis quand ils grandissent, c'est ce que je vis là et ce que j'aime bien, et c'est que ils peuvent venir picorer des informations, commencer à faire des choses. En fait c'est aussi un lieu bien sûr de partage, convivialité, c'est un lieu d'éducation et où il se passe évidemment autre chose que dans les autres pièces, et il faut voir la joie des enfants. enfants qui simplement apprennent à découper des courgettes, quoi. Mmh. C'est le plaisir de faire, mais pas simplement de faire de la pâte à modeler, etc., parce que c'est de participer à la vie familiale.
Je me souviens que vous aviez fait une chronique sur la découpe des légumes.
Oui, parce que simplement cette opération toute simple, je trouve toujours des fascinés. D'abord, il existe, le chef à côté me le dirait, mais des noms et des manières, des techniques pour découper les légumes. C'est toujours extrêmement impressionnant de voir la maîtrise technique de la découpe d'un légume. Et puis en fait, découper un légume, c'est précisément transformer le légume avant même de le cuire ou quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui donner une autre forme. Tous les légumes ont des formes et des couleurs assez rigolotes quand elles sortent du potager ou quand on vient les prendre au marché. Et la découpe, elle consiste à vraiment lui donner une forme humaine, une forme distincte, une forme culturelle. Je trouve que cette opération est magique parce que simplement à la pointe de mon couteau sur mon plan de travail, je suis quasiment une sorte de dieu qui crée quelque chose qui n'existait pas.
Grégory Cohen, vous êtes un magicien, un dieu et un philosophe quand vous découpez vos légumes.
Mais moi j'adore ça, hein. Franchement j'adore cette émission. Elle est tellement feel good pour moi, c'est fabuleux.
Raymond Guiri.
Oui, je rajouterais effectivement, c'est une forme de reconnexion en fait à la vraie vie. Je pense que beaucoup de gens qui cuisinent, quand ils prennent les légumes, ils commencent à les façonner, ils se retrouvent au contact concret, tactile, et dans l'enquête qu'on a fait, on voit bien que c'est ce retour au concret qui est fondamental. Donc faire la cuisine, c'est aussi revenir à des choses concrètes.
Et vous, pourquoi aimez-vous cuisiner? Contactez-nous au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Le Prince.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou. Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Mickey 3D, interprété Respire.
Ça glisse, oui. Ah, la bonne heure.
Grand bien vous fasse.
Prends de la moutarde, prends des cornichons. Un maximum d'épices, ça donne soif. Tu veux du saucisson à l'ail ?
Ali Rebéi.
L'admirable cholestérol qu'on va se payer.
Sur France Inter.
10h26 et on s'intéresse ce matin au plaisir de cuisiner. Pourquoi prenez-vous le temps de préparer de bons petits plats ? Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Vous voyez la consistance de la crème ? C'est la même consistance ici que la crème qui commence à prendre. Alors j'y donne un coup de fouet, tu vois, parce que la gélatine, elle fait son effet, hein, Maurice ? Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va mélanger les deux masses ensemble. Et en fait, c'est ça le secret d'une charlotte réussie, c'est que les deux masses soient exactement à la même consistance.
Mmh. Ouh, ça va être
tiens,
bon.
Tu vas goûter ici. Et regardez ce que je fais sur le dessus. C'est bon, hein ? Tu sens le petit parfum léger des fruits de la passion. Me dis pas que tu le sens pas, Maurice.
Je sens que ça...
Bon, là, maintenant, j'enlève le moule, je le pose devant toi, je prends le plat. Attends, tu y es, Maurice ?
Oui.
Hop ! Ouais ! Oh, ça a marché, dis donc.
Ah, dis donc.
Oh là 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 ! Regarde si c'est beau et si ça va être bon.
Voilà un chef, Michel Oliver, qui m'a donné envie de faire la cuisine avec ma mère et ma grand-mère maternelle, évidemment. Nathalie Hélal, je rappelle que vous êtes journaliste. Bien souvent, le plaisir de cuisiner puise sa source dans la famille. Ou alors, oui. On peut développer une passion pour la cuisine en réaction à des parents habitués aux plats préparés et à la purée en sachet.
Oui, aussi.
Il y a les deux cas.
Oui, il y a les deux cas parce qu'en fait, souvent, il y a eu ce qu'on appelle la rupture de transmission. Vous savez, dans les années 70, 80, 90, en fait, il y avait très peu de femmes qui avaient encore une fois cette envie de cuisiner, pour qui c'était une corvée. Et je pense qu'il y a toute une génération de femmes dont je fais partie, mais ma maman qui écoute adorait cuisiner et adore toujours cuisiner, donc pas elle justement, mais il y avait beaucoup de femmes qui n'ont pas pu avoir cette transmission, bénéficier de cette transmission des recettes par leur mère, et je crois que ce sont ces femmes qui aujourd'hui se sont mises d'arrache-pied justement à la cuisine via les blogs, les magazines et les émissions de télé.
Pascal Lardelier, sociologue en duplex de Dijon.
Oui. C'est vrai que ça procède d'une reconquête. Hein. On le voit depuis une quinzaine d'années, cette vogue incroyable. Alors d'abord, les livres de cuisine, les magazines, les blogs, etc. Et c'est vrai que cuisiner, finalement, c'est retrouver finalement une identité familiale, culturelle, ethnique parfois. Et puis, c'est se retremper justement à ce creuset d'appartenance à travers des plats qu'on va transmettre, qu'on va partager, qui vont revenir de manière rituelle dans l'année, dans le calendrier de la famille, etc. Et vraiment, ça procède d'une reconquête, d'une réappropriation. Après toutes ces années où, comme ça vient d'être dit, il y avait une rupture en quelque sorte de transmission et puis une dépossession par la montée en puissance de la cuisine industrielle, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des moments rituels de la semaine, du mois, de l'année, où on éprouve le besoin de ralentir le temps et puis de cuisiner ensemble et de goûter ensemble parce que ça procède un petit peu de la Madeleine de Proust, hein, bien évidemment. On goûte quelque chose qui appartient à l'histoire familiale.
Nicolas nous envoie un courriel. Dans ma famille, il y a un gâteau qui se transmet de mère en fille. On l'appelle le Silva Belle et je ne connais pas son origine, mais il est composé de blanc en neige, de chocolat, de beurre et de petit beurre, le tout concassé et mélangé. C'est comme une tradition familiale pour tous les anniversaires et fêtes de famille. La recette précise ne s'obtient pas si facilement d'ailleurs. Bonjour Catherine, vous appelez du Gard.
Bonjour.
Alors est-ce que vous avez des recettes que vous transmettez de façon un peu secrète de père en fille ou de mère en fils?
Alors, il y a plusieurs recettes, mais je ne vais pas peut-être donner les détails. Mais je voulais dire... Pardon ?
Non, vous ne voulez pas nous
délivrer
de secrets.
Non, mais attendez. J'ai moi-même 75 ans, je suis née en Suisse. Mm-hmm. Et j'ai déjà hérité de ma mère une grande passion pour la cuisine. Elle-même la tenait déjà de sa mère à elle. Et voilà, je l'ai transmise à ma fille et à ma petite fille. Sachez ma mère que dans les années 50, j'ai mangé quand même mes premières Saint-Jacques. Mmh. Et puis, par la suite, ma petite fille, quand elle était même pas, elle savait même pas encore marcher, je la prenais, elle voulait voir ce qui se passait dans les casseroles, alors je la prenais sur ma hanche, elle regardait. Puis par la suite, très vite, elle s'y est mise. Elle a, à 4 ans, elle a fait ses premières pizzas et puis très vite des feuilletés. Et toujours actuellement. Alors voilà.
À 4 ans, elle faisait des feuilletés des pizzas. C'est formidable.
Oui.
Qu'est-ce que vous transmettez à votre petite fille? Est-ce qu'il y a une recette que vous lui transmettez? Une recette de famille?
Alors écoutez, il y a plusieurs recettes de famille. Je vais vous dire, il y a des fraises, c'est des recettes, quelques-unes sont suisses. Après, moi, je suis tellement curieuse de cuisine que j'ai des tas de nouvelles recettes que je transmets au fur et à mesure. Et j'ai toujours un immense plaisir à inviter des amis à la maison, voilà.
Quels sont les grands souvenirs de transmission autour de la table, Grégory Cohen?
Elle veut pas donner ses recettes, hein, on a remarqué quand même là. Elle les garde, ses recettes, pourtant elle nous a fait saliver. Oui. Moi, en fait, avec mes enfants, alors transmission ma mère vers moi ou de moi vers
les
mes
deux.
Enfants? Alors de ma mère vers moi, c'est très ethnique. C'est lié à sa jeunesse à Alger. La recette qu'elle m'a transmise, la première recette qu'elle m'a transmise, c'est le couscous au petit lait et aux fèves avec un petit peu de sucre. Donc comment égrainer le couscous, je la voyais égrainer le couscous et c'est tout un art d'égrainer le couscous. Et puis comment elle faisait cuire ses fèves, déjà comment on les préparait fraîches. Il y avait toute une poésie là-dedans et surtout il y avait un truc qui est extraordinaire mais que je retrouve avec mes enfants aussi. La cuisine en famille, c'est un moment hors temps, comme vous le disiez. C'est un moment qui nous appartient et qui crée des liens qui sont assez forts parce qu'on partage et que la somme de notre travail va réaliser un plat unique qu'on aura réalisé ensemble en fait.
Nathalie Elal.
Oui, à propos de la famille, il y avait un mot qui me tient à cœur, c'est le mot foyer, parce que le foyer familial, mais aussi le feu, hein, c'est l'emplacement du feu dans la cuisine, enfin autrefois, le foyer c'est ça. Alors moi j'ai une transmission assez particulière, parce que j'ai eu deux grands-mères qui cuisinaient énormément, une maman qui cuisinait énormément, donc il y a beaucoup de recettes, beaucoup de cahiers de recettes auxquels je tiens comme à la prunelle de mes yeux chez moi, vraiment, même des cahiers de la grande-tante avec des recettes de 1920, enfin c'est extraordinaire, j'ai tout ça chez moi en archive, et j'ai adoré, moi, transmettre, pas seulement à mes enfants, mais je me souviens d'un quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Mon fils aîné avait 6-7 ans et je suis allée animer dans une école, c'était une école maternelle, donc il avait 6 ans, c'est ça, un atelier de petits biscuits pour des enfants de sa classe. Et je me souviens que les enfants avaient été tous passionnés et qu'encore un an, deux ans plus tard, en me recroisant dans la rue, à Issy-les-Moulineaux où j'habite, eh bien les enfants m'en reparlaient. Donc ça, c'était une vraie émotion.
Merci beaucoup, Catherine, de nous avoir appelé. Flavia Mazzolin-Salvi, je rappelle que vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. La cuisine nous raconte, elle raconte notre histoire. Histoire intime.
Oui, l'histoire, effectivement, la transmission de gestes, elle raconte nos origines, elle raconte aussi notre place dans la famille, quelque chose aussi de la féminité. Une mère qui cuisine ou qui ne cuisine pas, ça dit quelque chose à son fils ou à sa fille, selon qu'on reçoit des recettes de sa grand-mère, de sa mère, si l'homme participe, s'il est exclu, qui fait les courses. En fait, c'est à la fois une carte psychologique, on peut dire, de la répartition des rôles de chacun, des héritages, parce que même quand on a une mère qui cuisine et quand on a plusieurs frères et sœurs, pas tous ne vont être cuisiniers. Qu'est-ce qui se joue? À qui la mère, la grand-mère ou le père ou le grand-père choisit de passer des recettes? À qui est initié? Voilà, il y a tout un décryptage psycho, de micro-sociologie et de psychologie en tout cas, à faire pour comprendre son histoire par ce biais.
Rémi Hudguéry, sociologue.
Oui, ce qui est assez frappant quand on regarde les gens qui cuisinent, qui aiment ça, c'est qu'ils ont toujours à cœur de partager ce qu'ils font et de le transmettre. C'est une sorte de... C'est un trait récurrent quand on les compare au reste de la population. Comme s'il y avait une forme un enjeu d'héritage, soit familial, soit historique, soit culturel. Et c'est vrai que ça m'a frappé quand j'ai regardé les résultats de ce qu'on a fait, c'est que il y a ce besoin de mettre, de transmettre quelque chose. Presque une angoisse.
Nathalie, et là, les blogs de cuisine jouent un rôle important dans la transmission. Je pense par exemple à Papy et Pupi qui connaît un grand succès.
Et il y en a bien d'autres, bien évidemment. D'autres depuis le début des années 2000. En fait, les tout premiers blogs se sont ensuite beaucoup professionnalisés. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement incroyable.
Il joue ce rôle de transmission.
Il y a ce rôle. Alors après, il y a beaucoup de blogs qui se repiquent un peu les recettes les uns les autres. Bon, c'est un peu l'écueil de la blogosphère. Mais je trouve ça très intéressant. Ça raconte en effet quelque chose de ce besoin de transmettre, de partager au plus grand nombre, parce qu'il y a une chose très très importante dans ce bonheur, ce plaisir à cuisiner, c'est cette notion de partage, de convivialité qu'on retrouve aussi virtuellement. Et c'est ça qui est intéressant.
Pascal Lardelier, de plus en plus de Français fréquentent les cours de cuisine pour diverses raisons.
Alors, c'est vrai que les statistiques sont complètement incroyables, puisque je crois qu'enfin, je l'ai lu, en 2004, 5000 personnes suivaient des cours de cuisine et 10 ans après, ils étaient 200 000. Donc, vraiment, il y a une tendance profonde.
Comment vous expliquez ce succès?
On revient toujours à ça, de redécouvrir, de partager, bien évidemment, parce que les cours de cuisine, c'est toujours des choses que l'on fait ensemble. Ça procède d'une initiation et puis la dramaturgie finale, c'est de déguster ensemble, etc. J'ose affirmer que finalement une part de notre identité sensible, elle est au fond de nos casseroles. Regardez comme on parle de ce qu'on a goûté avec délice ou dégoût quand on revient de voyage. Et puis regardez comment les Froggies ou les Roast Beef finalement définissent leur identité des deux côtés de la Manche par des plats que l'on mange. Et c'est vrai que vraiment l'identité, c'est quelque chose qui se retrouve dans la cuisine, qui se retrouve dans les casseroles et les recettes. Et le fait de s'inscrire comme ça à des cours de cuisine, je le disais tout à l'heure, ça lutte à mon avis contre cette société d'individualisme connecté et puis de nourriture industrielle. On a besoin d'ouvrir une parenthèse où on va célébrer quelque chose de l'ordre de la lenteur, du goût, du plaisir.
Nathalie Lal.
Oui, puis c'est pratique aussi les ateliers cuisine pour briser la glace, créer du lien, voire draguer autour de la meilleure manière de réussir ses calamars à la plancha ou sa pâte feuilletée. C'est très pratique. Mais non, mais attendez, on rigole, mais Mythique ne s'y est pas trompé. Il avait créé des ateliers cuisine, donc ça veut bien dire quelque chose.
Rémy de Guéry,
c'est vrai. Et je soulignerai aussi qu'en France en particulier, cette notion de convivialité, elle est extrêmement importante. On prend le temps de manger, ce qu'on fait pas du tout dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays dans le monde. On prend le temps de partager, on prend le temps de parler de ce qu'on mange.
Aux heures des repas.
On est encore un des pays où la règle des 3 repas est extrêmement respectée, même si elle a tendance à s'effilocher au fil des décennies, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays où on a plutôt tendance à manger un peu à n'importe quelle heure. Donc il y a vraiment autour de cette notion de convivialité, effectivement, je rejoins là ce qui a été dit, une part d'identité en fait.
Grégory Cohen.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment est-ce qu'on fonctionne nous par rapport aux autres pays. Là, je suis revenu il n'y a pas très longtemps du Japon. Nathalie disait que c'était les rois de la découpe et paradoxalement, lorsqu'ils mangent, ils mangent qu'avec des baguettes. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que ils ont pas de cuisine chez eux, ils ne reçoivent pas. Donc en fait, c'est qu'une cuisine de restaurant. Donc c'est assez étonnant de voir ça. Il y a pas cette notion de partage en faisant à manger, donc de côté de plaisir nourricier presque maternel, de nourrir les autres autour de soi. Enfin, ça, je pense que nos amis pourront en parler mieux que moi. Mais il y a cette notion juste de manger dans un restaurant.
Flavia Mazzolin.
Alors c'est vrai que en vous écoutant, je pensais qu'il y a ce plaisir de cuisiner, ce désir de partage, de convivialité, mais c'est devenu aussi très compliqué. Je trouve, entre les intolérances au gluten, les amis végétariens, vegan, des produits bio, la traçabilité, c'est devenu un casse-tête. C'est un plaisir aujourd'hui cuisiner, mais c'est aussi un casse-tête. Et du coup, les questions que l'on pose avant de recevoir ressemblent vraiment presque à un questionnaire de santé maintenant, sur les allergies étant aussi bien présentes dans le questionnaire. Voilà, c'est compliqué, je trouve.
Rémy de Guéry, j'aimerais qu'on revienne sur l'étude que vous avez réalisée consacrée à la passion des Français pour la cuisine. La cuisine loisir est vécue par beaucoup comme un refuge protecteur. Expliquez-nous.
Oui, je pense que Pascal Lardelier a parlé d'individualisme connecté. Je pense que c'est vrai que beaucoup vivent toute la journée rivés derrière un ordinateur ou ont une vie stressante ou ressentent de la pression au travail, rentrent chez eux fatigués, épuisés. Donc, soit quand ils en ont le temps le soir, soit surtout le week-end, c'est le moment où ils vont pouvoir s'échapper complètement et se créer une bulle un peu protectrice, où ils sont maîtres à bord, où ils peuvent choisir en toute liberté, en toute autonomie, la qualité, la composition de ce qu'ils vont faire, et où ensuite, au sein de cette bulle protectrice, ils ne seront pas seuls, parce que en général, on cuisine pas que pour soi-même, on cuisine pour les autres. Et donc, c'est un rituel qui permet d'échapper à une forme de pression qui s'exerce sur les individus le reste de la semaine.
Thibaut de Saint-Maurice, vos réflexions philosophiques me mettent l'eau à la bouche.
Oui, puis moi je vous cache pas, Ali, cette discussion depuis le début, hein, ça me donne envie de passer un tablier et de préparer un bon petit plat, donc découper des légumes, assaisonner, laisser mijoter et puis dresser de jolies assiettes. Vous avez remarqué d'ailleurs, on dit dresser une assiette comme on dresse un animal, peut-être aussi parce que dans les deux cas, il s'agit d'imposer un ordre humain à des réalités naturelles. Et c'est justement là, je crois, une des clés de ce plaisir spécifique que nous avons quand on cuisine. Bien sûr, il y a le plaisir d'anticiper le plaisir que nous aurons à déguster ce qu'on va cuisiner. Mais le plaisir de la cuisine dépasse, on l'a entendu depuis le début de cette émission, le plaisir du goût et le plaisir de se nourrir. C'est un plaisir de création et par là même la joie d'épanouir en nous notre humanité tout entière.
Et ça commence avec la cuisine de tous les jours, la cuisine ménagère.
Exactement, parce que ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un grand chef. Un simple plat de spaghetti carbonara, une salade composée, une soupe, une tarte, et déjà nous pouvons exprimer notre humanité. Parce que dès la plus simple des recettes, nous réalisons cette opération presque magique, qui consiste à créer un plat qui est plus que la somme de ses ingrédients. En bonne métaphysique, et comme pourrait le dire le philosophe Aristote, on dirait que l'on crée un tout qui ne se réduit pas à la somme de ses parties. Vous le savez, Ali, la magie de la cuisine, c'est qu'il ne suffit pas d'additionner les ingrédients pour faire le plat. Encore faut-il leur imposer un ordre, les travailler, et puis les laisser travailler ensemble, ces ingrédients, mariner, mijoter, fusionner, tout en laissant la possibilité à chacun de s'exprimer. Toutes ces opérations, elles créent donc quelque chose qui n'était pas présent au départ sur le plan de travail, une forme, un achèvement, un résultat. Lorsque je cuisine, en fait, je donne à des matières une forme qu'elles ne pouvaient pas avoir au départ. Et l'idée qui n'existait au départ que dans la tête du cuisinier, elle se réalise finalement dans l'assiette, en actualisant tout le potentiel de chacun des ingrédients et de la combinaison de tous les ingrédients. Voilà, cette opération-là, hein, que chacun de nous peut réaliser tous les jours dans sa cuisine, exprime notre capacité à faire exister quelque chose qui n'existait pas avant et qui ne pourrait pas exister sans nous. Le plaisir de cuisiner, c'est donc pas seulement le plaisir de se nourrir, mais précisément le plaisir de se nourrir d'une certaine forme, d'une certaine idée de se nourrir. En cuisinant, en fait, on pourrait dire on met les deux pieds de notre humanité dans les plats que nous allons manger. En cuisinant, nous nous cuisinons nous-mêmes parce que nous exprimons notre humanité, une humanité qui est toute contente de raffiner la manière dont elle satisfait ses besoins. Et puis, du coup, en ce sens, cuisiner, ça devient comme écrire un poème. C'est la même chose. Cuisiner ou jouer de la musique, c'est encore la même chose. Parce que quand on cuisine, on combine des éléments dans un certain ordre, comme quand on compose une phrase ou que l'on suit une partition. C'est pour ça que le grand sémiologue Roland Barthes faisait remarquer qu'un plat a tout autant de sens qu'une phrase. Le plaisir de cuisiner, c'est donc aussi le plaisir de s'exprimer, de communiquer des messages, de partager ce que l'on est, de faire signe aux autres et se faire signe à soi-même. Et ce qui est génial, c'est que c'est une création qui est accessible à tout le monde. Là encore, pas besoin d'être un grand chef, hein, il suffit juste de cuisiner ce que l'on va manger et de manger ce que l'on a cuisiné pour ressentir le plaisir de redevenir le chef de son quotidien.
La petite philosophie de la vie quotidienne de Thibaut de Saint-Maurice à retrouver en vidéo sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Allez, racontez-nous les tours de main, recettes, savoir-faire qui se transmettent dans votre famille. 01 45 24 7000. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Ooh.
like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning. But every time a proud romance, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified.
Vampire Weekend, Harmony Hall.
Et maintenant, goûte-moi ça. Tu mâches doucement et tu te concentres sur le goût.
Grand bien vous fasse.
Alors, tu sens ce goût de crème douce amère, cette pointe de noisette légèrement piquée. Tu sens tout ça?
Oh, il n'y a pas que la noisette qui est piquée.
Sur France Inter.
10h46, on s'intéresse ce matin au plaisir de cuisiner. Grégory Cohen, cuisiner, c'est reprendre le pouvoir hein, en tournant le dos aux aliments ultra transformés, bourrés d'additifs, d'ingrédients que ne connaissaient pas nos grands-mères.
Alors, il y a beaucoup de... Alors, il y a deux choses, oui, effectivement. Cuisiner, c'est déjà cuisiner, c'est prendre des ingrédients qui sont des ingrédients qu'on trouverait naturellement ou a priori naturellement dans la nature. Déjà, moi, pour moi, ça, c'est la base. Si on prend une boîte de biscuits, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris une boîte de biscuits dont mes enfants raffolent, je retourne et je lis les ingrédients. Il n'y a pas un ingrédient...
Que votre grand-mère connaissait.
Que ma grand-mère ou que moi je connais. C'est-à-dire que c'est surréaliste. Il y a que des arômes artificiels, il y a que des conservateurs, des stabilisateurs, et après toute une bardée de eux quelque chose, etc. C'est catastrophique. Donc oui, cuisiner, c'est du bon sens parce que on retrouve ce côté du bon sens et le transformer.
Et c'est le bonheur cuisiner, le bonheur inouï de faire son marché, de choisir des produits, de discuter avec son crémier, son charcutier, son maraîcher. Nathalie Hélal, je rappelle que vous êtes journaliste.
Moi, je vais deux fois par semaine dans un marché à Boulogne-Billancourt. J'adore le faire. J'ai pas beaucoup de temps, mais je me force à le faire. Parce qu'encore une fois, je suis tellement gourmande. C'est pas seulement être obsédée par le bien-être et les aliments sains, etc. C'est que je suis gourmande et j'aime choisir ce que je vais mettre dans mon assiette. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont obsédés justement par cette envie de faire bien avec des ingrédients pas transformés, simples, et qui vont donc aller en fonction de ça au marché. Moi, c'est plus par gourmandise parce que j'aime aussi visuellement regarder les étals.
Rémi Houdguiri, sociologue.
Oui, je pense qu'en France en particulier, il y a aujourd'hui le sentiment que l'alimentation s'est dégradée au fil des décennies. Aujourd'hui, il y a 2 Français sur 3 qui nous le disent. Ils disent, voilà, il y a plus de qualité, la qualité se détériore. Et donc, c'est vrai que la tradition des marchés, elle reste très vivace en France. Elle répond en partie à ce besoin d'aller chercher le bon aliment, le bon ingrédient, etc. Sachant que on est aussi dans une société où les gens ont de moins en moins de temps et en chaque individu se livre une bataille entre l'envie de bien manger, de cuisiner, d'avoir des bons ingrédients et de l'autre, le fait de manquer de temps. Et je rajouterai une troisième dimension qui est le prix. Parce que souvent, accéder à la qualité, ça coûte cher.
Flavia Mazzolin, Salvi de Psychologie Magazine.
Oui, et le marché aussi, c'est un des rares endroits où il y a encore des odeurs. Les magasins, l'alimentation dans les magasins, ça ne sent plus rien. Et aller au marché, c'est aussi se reconnecter à ses sens. Et c'est déjà peut-être commencer comme ça à cuisiner dans sa tête. On peut partir sans idée, puis être accroché, attrapé au passage par une odeur, mais aussi par une couleur. Et puis, si on a l'autorisation de toucher, enfin, moi j'avais l'habitude dans les marchés en Corse où on peut toucher, hein, c'est très latin, alors on peut palper, on se fait pas gronder. À Paris, c'est un peu plus, j'y range mes mains dans mes poches plus souvent qu'à mon tour. C'est plus difficile, mais voilà, c'est tous les sens qui sont convoqués et de cette sensorialité naissent des idées,
ça
des envies.
Ça stimule l'imagination.
Ah oui.
Le marché.
Oui.
Vous citez Colette souvent, Flavia Mazzolin-Salvi, il y a une phrase que vous aimez beaucoup.
Ah oui. Elle dit qu'il faut être, il faut se C'est de la sorcellerie, la cuisine. Et si on n'a pas ce sens de la sorcellerie, c'est pas la peine de se mêler de cuisine. Mmh. Et en fait, je pense que vraiment, c'est ça. Vous êtes sorcier.
Vous êtes d'accord avec ça, Grégory?
Ah oui, complètement, complètement. La cuisine, c'est de la sorcellerie, c'est de la chimie.
De l'alchimie.
Oui, de l'alchimie, de la transformation. On a réussi à transformer pas des produits, pas du plomb en or, mais on a réussi à transformer des carottes en étoiles, parfois même, en fonction de la façon dont c'est produit. Le cuisinier aujourd'hui, il a aussi un rôle, on appelle ça sourcer les produits, et il a un rôle qui est un rôle de connaître les produits, beaucoup plus que ceux que ma mère connaissait ou que ma grand-mère connaissait, d'aller au-delà des frontières. Là, j'ai découvert un petit producteur incroyable qui a fait des casettes. Les casettes, vous savez ce que c'est ?
Non.
Ce sont des noisettes qui sont torréfiées comme du café. Et c'est absolument incroyable. C'est un retraité, il a 70 ans, il a une toute petite production et il fait un produit phénoménal.
Rémieux de Guéry.
Oui, il y a une chose frappante quand on cuisine, c'est que même si on refait la même recette, c'est jamais exactement la même chose. Donc il y a aussi cette quête de, à chaque fois, quelque chose d'unique qui échappe à la standardisation.
Et une recette réussie, c'est toujours une petite victoire, finalement.
Mathieu nous dit, depuis l'île de la Réunion, la cuisine, c'est plusieurs arts. La peinture pour ses différentes couleurs, la musique, car elle chante quand elle mijote. Moi, ce que j'aime dans la cuisine, c'est imaginer une saveur que j'aimerais avoir en bouche, puis, avec l'alchimie des épices et des aromates, réaliser le plat avec cette saveur imaginée et partager le savoir-faire. Quelque part, la cuisine réalise les rêves. Bonjour Anne-Marie, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Valory, c'est ça?
Oui, Valory, pas Valoris, Valory. C'est un petit village de la Drôme, près de Montélimar.
Alors, vous transmettez des recettes de génération en génération?
Tout à fait. J'avais une grand-mère qui était cuisinière dans une maison bourgeoise en Italie, puis qui a émigré en France au moment de l'avenue de Mussolini en Italie. Et on a une recette mythique dans la famille, c'est la soupe au pistou.
Ah, vous allez nous la raconter, Anne-Marie?
Ah, mais très volontiers.
Allez-y.
D'abord, bon, elle se fait à la fin de l'été, hein, quand les haricots en grains sont bien mûrs. Mm-hmm. Il faut des haricots roses, ceux qui ont la gousse tigrée rose et beige, là, et blanche. Mm-hmm. Et puis les gros haricots blancs et des haricots plats. Mm-hmm. Les gros verts plats qu'on coupe en tronçons. Et rien d'autre, pas de carottes, pas de légumes d'hiver, pas de poireaux, pas de carottes, rien de tout ça. Donc ça, on met ça dans l'eau. Il faut des pâtes, des spaghettis fins qu'on coupe en petits tronçons aussi. Et puis le secret, c'est évidemment le pistou, donc le mélange qu'on fait au mortier. Il faut une bonne tête d'ail, tout un gros bouquet de basilic frais, des pignons de pin, du parmesan, de l'emmental râpé, une pointe de mimolette vieille, de l'huile d'olive et une grosse tomate qu'on pèle à l'eau bouillante et qu'on ajoute pour lier cette pommade. Et on fait ça au pilon dans un mortier en marbre ou en bois et on le met dans la soupe. Alors quand les légumes sont à peu près cuits, on met les pâtes. Et quand les pâtes sont cuites, il faut pas que ça bouille, il faut que le bouillon soit retombé pour que les fromages de la pommade ne se prennent pas. Quand c'est juste frémissant, on met la pommade dedans et voilà.
Eh ben, Anne-Marie, envoyez-nous la recette, on la mettra sur notre page Facebook. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Bonjour Delphine.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Trévérec, c'est ça?
Oui,
c'est
voilà.
C'est où Trévérec?
C'est dans les Côtes-d'Armor, à côté de Paimpol.
Alors vous habitez donc ce petit village et vous avez créé un livre de cuisine du village, c'est ça?
Voilà, on a pris, avec mon ami Catel, on est allé sonner à toutes les portes et on a dit aux gens, ben voilà, qu'est-ce que vous cuisinez concrètement dans vos cuisines? Et les trois quarts du village ont donné une recette et on a édité un livre.
Qu'est-ce que vous avez donné comme recette, vous, Delphine?
Moi, j'ai donné les cookies et puis le gâteau à la banane.
Bon, alors quel est votre petit secret, votre tour de main pour les cookies? Nous avons eu la chance dans une précédente émission de déguster les cookies de Grégory Cohen, absolument divin. Vous, est-ce que vous avez un petit tour de main?
Mais en fait, moi je suis une ancienne parisienne et j'adorais les cookies Laura Todd et ça me manquait beaucoup. Donc mon but, c'était de faire ces cookies-là.
Vous avez un tour de main? Vous avez un ingrédient secret ou...
Je ne sais pas, mais il y a peut-être un petit peu de beurre de cacahuète, petit peu.
Voilà.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un voisin qui nous a créé une recette pour le livre, et c'était les lasagnes au blé noir. Merci. Avec des galettes.
Merci beaucoup Delphine de nous avoir appelé autour de la table. Vous avez peut-être une petite recette que vous transmettez de génération en génération, Flavia Mazzolin.
Oui, moi j'ai la recette de ma grand-mère, donc moi je suis corse, d'origine corse, c'est le fiadone, c'est qu'on s'est partagé, qu'elle nous a une recette transmise, et voilà que j'ai transmise à mon fils, à mon tour, qu'il réussit très bien. Voilà, c'est avec du brooch ou de la brousse, des œufs, zeste de citron, et l'ingrédient secret qui fait tout, c'est l'eau de vie.
Ah.
Voilà. C'est un entremets, un gâteau délicieux.
Qui a un secret à partager autour de la table, Thibaut de Saint-Maurice?
Alors moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai reçu, mais c'est quelque chose que je plais à, qui me plaît à transmettre. C'est tout simple en fait. Vous allez voir, c'est en fait c'est une quiche, mais qui n'a pas la forme d'une quiche. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est je la fais.
Expliquez-nous.
Juste... Ben non, mais c'est
une quiche en trompe-l'œil.
Non, mais au lieu de prendre un moule à tarte rond, on prend un moule à cake et avec on met dedans, je mets une pâte feuilletée. Là, je ne fais pas la pâte feuilletée tout seul, mais j'achète une pâte feuilletée que je mets au fond. Après, à l'intérieur, je mets du fromage, enfin tous les ingrédients de la quiche, etc. Et je referme la pâte feuilletée. Oh. Et en fait, ensuite, quand on la présente, ça se présente un peu comme sous une forme de cake ou une terrine.
Une tourte.
Ouais, ou une tourte, sauf que c'est une tourte qui a une forme de cake. Enfin, j'aime bien quand ça change de...
Quand ça change de... Quand ça s'attend pas voilà, visuellement
parce
à ce
que,
qu'on...
Du coup, ça est juste une manière simple de transformer une habitude, quoi.
Et ça plaît à vos enfants?
Oui, bah c'est ludique, du coup.
On a parlé de plaisir, mais la cuisine, c'est aussi une discipline, hein, Flavia Mazzolin.
Oui, c'est une discipline. Nathalie a parlé tout à l'heure de la réussite d'une recette qui renforçait la confiance en soi. C'est un outil de développement personnel. Effectivement, mener une tâche de A à Z, mais déjà, c'est très satisfaisant dans nos vies morcelées où on a très peu l'occasion d'être maître de nos tâches. Tout est segmenté, morcelé, découpé. Là, on a déjà cette satisfaction d'être maître à bord. Et la réussite, effectivement, est une réussite contagieuse, j'allais dire. Quand on réussit une recette, on est rempli de joie, de fierté, et qui va nous permettre, si on s'appuie sur ce, rien qu'en souvenir, sur cette expérience positive, heureuse, eh bien, d'avoir plus d'élan et d'aller vers d'autres tâches professionnelles, par exemple, à accomplir avec ce petit plus de satisfaction personnelle. Mais c'est aussi la cuisine, une activité spirituelle, notamment dans le bouddhisme zen, où le tenzo, c'est le cuisinier, qui occupe la fonction, la deuxième fonction importante, juste après l'abbé. Et il y a un très beau, très très beau petit livre que je conseille à tous les cuisiniers, les professionnels ou amateurs. C'est Instructions aux cuisiniers. C'est de Maître Dogen. C'est le grand maître du zen, l'importateur en France du bouddhisme zen chinois. Et il a cette phrase. C'est très beau, c'est très simple, et il donne des conseils aux cuisiniers des temples. Et à un moment, il y a ce passage que j'aime beaucoup. Il dit, quand tu prends cette feuille, je crois que c'est une feuille de chou, mais peut-être je m'avance, ne pose pas un regard ordinaire sur les choses ordinaires et fais de cette feuille de chou un temple. Et je trouve absolument magnifique ce regard qui doit cesser d'être ordinaire sur une chose ordinaire pour en faire un moment extraordinaire.
Nathalie Hélal.
Triple plaisir, plaisir de faire, de partager, de déguster.
Et je rajouterais, il y a un rôle diplomatique de la cuisine, oui. Parce que la cuisine, c'est aussi ce qui rend les gens heureux d'être ensemble. Et donc, tout se règle finalement autour d'une bonne table. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais je pense qu'elle est très vraie.
Et Grégory Cohen, vous avez pris note, hein, instruction au cuisinier.
Moi, j'ai pris note, instruction au cuisinier, magnifique. Et alors, je voudrais partager une toute petite recette très très rapide qui va très vite. Ça s'appelle le palais au raisin. Elle est mémotechnique. C'est 250 grammes de beurre, de sucre, de farine et de raisin et 5 œufs. On mélange le tout et on fait des magnifiques palais au raisin à 180 degrés.
Raisin sec, évidemment.
Raisin sec, évidemment.
Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci à nos amis de France Bleu à Dijon. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Demain, on s'intéresse à tous ces jardins qui font du bien. Ces jardins anglais, à la française, japonais. Ces parcs, ces potagers qui nous permettent de cultiver notre intériorité. Question témoignage au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. À la technique ce matin, YouTube Diego Hack Lopez et Maxime Ingrand.